Internet crée-t-il de nouvelles inégalités? Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les 12% de Belges qui ne vont jamais sur Internet? Nous en parlons avec Pierre Lelong, initiateur des espaces publics numériques en Wallonie, Romain Cornet.
Oui, bonjour Pierre Lelong.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis Charleroi, où se trouve le centre de compétences Technofutur TIC, où vous êtes chef de projet. Une première réflexion qui est souvent exprimée ce matin en ce qui concerne l'accès à Internet, eh bien c'est d'abord la question du prix.
Oui,
écoutez, oui. D'abord.
L'abonnement d'Internet à plus de 30 euros n'est-il pas un frein à la possibilité de certaines personnes d'avoir l'Internet, alors que dans les pays limitrophes, c'est trois fois moins cher?
Il y a moyen d'avoir Internet dans certains centres culturels, par exemple ici à Saint-Josse, où pour 1 euro par mois, vous avez droit à des cours ou à des coachings, mais aussi à une utilisation illimitée d'Internet. Mais effectivement, là, il faudrait une meilleure information pour les populations plus défavorisées.
Voilà, ces deux auditeurs, Pierre Lelong, le prix a un frein, mais aussi différentes initiatives qui permettent quand même d'avoir accès à une connexion et à du matériel.
Oui, de manière générale, les prix restent relativement élevés dans les ménages, même s'ils ont baissé en valeur absolue sur la durée. Mais il ne faut pas oublier que quand on parle de fracture numérique, quand on parle de ménage, parfois ce sont plusieurs abonnements à prendre. Et l'offre de prix, l'offre des prestataires télécoms n'est pas non plus transparente, parce qu'on mélange des double plays, des triple plays, on ouvre maintenant à d'autres personnes. Donc tout le monde se rend compte que le prix est élevé. Maintenant, il y a des raisons concurrentielles, il y a aussi derrière toute une problématique d'encadrement par des directives européennes de tout ce qui est télécom. Donc c'est pas si facile que ça, et c'est pour ça que des dispositifs justement comme l'espace public numérique ont été créés, principalement en Wallonie, ils sont soutenus par le gouvernement et par le ministre de l'économie numérique, où il y a notamment à peu près 140 lieux aujourd'hui qui fonctionnent et qui doivent être des lieux d'accès, de formation, de médiation.
Où les gens peuvent venir s'initier ou découvrir comment on va sur Internet.
Gratuitement, oui. Parfaitement. Alors, ce sont des lieux qui sont adossés à des bibliothèques, parfois des CPS, parfois des maisons de jeunes, donc qui ont des missions différentes et qui permettent fondamentalement d'accéder, si c'est pas totalement gratuitement, du moins des tarifs très sociaux à Internet. C'est là leur première mission, c'était l'accès.
140 en Wallonie, il y en a aussi à Bruxelles. Il est triste de voir combien les personnes âgées nous sommes discriminées, nous dit Jeanne sur Facebook. Mais dans cette problématique, Pierre Lelong, on ne parle pas que des personnes âgées, hein.
Non, il faut tenir compte du fait que quand on parle de 16, 17, 18% de la population qui n'utilise pas Internet, en valeur absolue, sur la communauté ou la fédération Wallonie-Bruxelles, ça représente à peu près 500 000 personnes de tous âges, c'est-à-dire ça représente énormément. Et derrière les études qui ont été réalisées pour connaître un peu le profil des personnes qui sont dans cette fracture numérique, on se rend compte qu'elle est souvent corrélée à des facteurs socio-économiques. C'est-à-dire des gens à plus faible pouvoir d'achat ou plus faible niveau d'éducation ou qui sont au chômage ou qui ont des problèmes de vie. Ce sont d'abord ces personnes-là qui sont touchées par la fracture numérique. Mmh. Et c'est souvent une injustice, une inégalité sociale qui se rajoute à d'autres inégalités.
Oui, inégalité, par exemple, en termes d'emploi, c'est ce que nous dit Nathalie.
Effectivement, je n'ai pas les moyens de m'offrir à Internet. Et lorsqu'on voit, bon, j'ai été longtemps en recherche d'emploi, et on peut clairement dire que j'ai été sanctionnée par cet état de fait. Et je trouve ça vraiment un peu spécial qu'on ne puisse maintenant accéder à certaines entreprises pour le travail que via Internet. Pour le reste, pour les papiers administratifs, tout ça, limite on vous envoie paître, on vous dit oui, c'est sur Internet.
Voilà, elle n'est pas la seule à nous dire ça, que c'est plus difficile de postuler, voire même de repérer une offre d'emploi.
Oui, il y a beaucoup plus d'offres d'emploi sur Internet, il faut le reconnaître. Elles ne sont pas ou plus centralisées dans un ou deux endroits, mais elles se trouvent sur 5, 6, 7, 8 portails. Et la personne, en effet, qui n'a pas accès à Internet ne peut pas avoir accès à ces offres d'emploi. Indépendamment du fait d'accéder à tous ces emplois gris dont on parle parfois, donc ces emplois qui ne font pas l'objet d'une formalisation dans des offres publiées quelque part et auxquelles on peut accéder par un réseau social. Donc, il y a un phénomène régressif à ne pas pouvoir participer à cette activation de l'emploi.
Au 02 737 33 33, vous êtes nombreux à poser ce constat. Il est de plus en plus difficile de se passer du web.
Oui, parce qu'il est difficile d'y trouver des informations qui sont pourtant essentielles, mais qui ne circulent pas toujours ailleurs.
On n'a plus aucun choix. Si vous voulez savoir un film de cinéma ou théâtre, les magasins, ils ne mettent plus que les numéros d'ordinateur. Mais vous n'avez pas d'adresse, vous n'avez pas de numéro de téléphone. C'est très, très, très agaçant. Les services disparaissent Et c'est vraiment une discrimination de ne pas être sur Internet, ce n'est pas juste.
On sent beaucoup de désarroi. Hein.
Oui, les services disparaissent, nous dit cette dame qui pense à certains services publics. Et en tout cas, on entend parfois des informations culturelles qui sont aussi essentielles, Pierre Lelong, qui sont difficiles à trouver dans les journaux comme avant.
Oui, en théorie, notamment par rapport au service public, on parle, bon, le service public doit être universel, ce qui signifie qu'aujourd'hui, il devrait encore et toujours être de type multicanal, c'est-à-dire accessible par le biais numérique, mais accessible aussi via des guichets, via des canaux classiques de communication. Et la plupart des pouvoirs publics ont, dans leurs déclarations politiques et dans leurs pratiques, réaffirment le principe. Maintenant, dans les faits, il y a souvent une marche par rapport à la réalité. Et il faut se dire que les services privés ne sont pas tenus à cette obligation d'égalité. Mmh. Donc, ce que je disais, c'est l'effet régressif. Cette fracture numérique est évolutive en permanence. Et des gens peuvent très bien, à un certain moment de leur vie, se trouver en effet dans une situation de fracturé ou d'exclu du fait de l'évolution des usages ou de la technologie.
Paul nous dit qu'il a même été refusé par une banque parce qu'il n'avait pas d'adresse e-mail à fournir. Plusieurs auditeurs nous disent qu'ils sont prêts à découvrir Internet, mais que tout ce qui est bancaire leur fait peur. Est-ce que c'est une peur qui vous revient souvent aussi?
Oui, qu'on retrouve dans toutes les études, hein, parce que l'étude fédérale, quelque part, relève aussi les mêmes problématiques de rassurance de la population que les études régionales, notamment en Wallonie, hein, qui est réalisée par ce qui était là où était l'ADN, où les gens ont besoin, en effet, d'être rassurés. Ils ont peur, ils ne comprennent pas en réalité ce qui se passe nécessairement. Ils entendent ce que disent les médias, par exemple, en termes de vie privée, de respect de la vie privée, ou de hacking de sites de banque. Ils n'ont pas les règles, ils ne maîtrisent pas les usages pour pouvoir s'en protéger ou simplement le comprendre.
Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce débat, notamment grâce à notre ligne téléphonique qui reste active.